Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Bienvenue à tous pour cette visio dont le thème sera crise de la démocratie, le point assemblée constituante ou l'eupénisme, point d'interrogation. Alors, quelques mots sur les amis du monde diplomatique qui sont à l'initiative de cette visioconférence. C'est une association qui regroupe et fédère les lecteurs les plus actifs du monde diplomatique, animée par de nombreux correspondants en France et à l'étranger, ainsi que par sa délégation générale. L'association organise chaque année des centaines de rencontres-débats et ainsi elle contribue directement au rayonnement des idées et des valeurs du monde diplomatique. Avec l'association Günther Holzmann, qui regroupe l'ensemble des personnels du journal, les Amis du monde diplomatique participent au capital du monde diplomatique, garantissant ainsi son indépendance et protégeant sa liberté d'informer. Alors, une présentation rapide de nos deux intervenants. Donc, je commencerai par André Belon. Donc, André, tu es polytechnicien et administrateur de l'INSEE. Tu as été élu député à 3 reprises. Tu as été élu président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. En 2007, tu fondes l'association pour une constituante dont tu en es le président. Celle-ci appelle le peuple français à modifier les institutions et à se réapproprier la vie politique autour de l'élection d'une assemblée constituante et de l'élaboration de cahiers de doléances. Tu es l'auteur de plusieurs essais, dont récemment « Ceci n'est pas une dictature » et certains essais écrits avec Anne-Cécile Robert, je peux citer « Un totalitarisme tranquille », La démocratie confisquée ou encore Le peuple inattendu. Tu es un collaborateur régulier du monde diplomatique et d'ailleurs dans le diplôme de ce mois-ci, on peut lire ton article intitulé « La France malade de ses institutions ». Quant à Anne-Cécile Robert, tu es directrice adjointe du monde diplomatique. Tu es membre du comité de rédaction et du directoire du monde diplomatique en tant que directrice des éditions et des relations internationales. Tu y es spécialiste des institutions européennes et de l'Afrique. Tu t'intéresses particulièrement aux organisations internationales, aux systèmes politiques et institutionnels, et à la démocratie, à ses limites et à ses fonctionnements. Tu es l'auteur de plusieurs essais, dont certains avec André Bellon, comme je l'ai précisé précédemment, et récemment tu as écrit « Le défi de la paix ». Cet ouvrage fournit les clés pour comprendre la crise actuelle de l'ordre international. Alors, vos interventions auront pour thème la crise de la démocratie, comme je l'ai dit tout à l'heure, assemblée constituante ou l'eupénisme. La crise politique ouverte par la dissolution intempestive de l'Assemblée nationale et les élections législatives est le symptôme d'une crise ancienne et profonde affectant nos institutions et le fonctionnement de notre démocratie. S'agit-il d'une véritable crise de régime? Je passe la parole à Anne-Cécile.
Bonjour à tous. Merci beaucoup aux amis du monde diplomatique d'organiser ce débat sur un sujet qui, je pense, nous préoccupe tous. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai pas prévu de parler très longtemps parce que je pense qu'on a beaucoup, qu'on a chacun envie d'échanger et de partager des réflexions. J'ai noté simplement quelques points qui me semblent importants pour alimenter notre discussion. La première chose, c'est effectivement que nous nous trouvons dans une situation politique inédite à bien des égards, puisque on n'a pas eu de gouvernement pendant plusieurs semaines. C'est une situation que la France n'avait pas connue depuis la Quatrième République. On a eu un président encore plus isolé que d'habitude, qui manœuvrait dans les coins. On a une Assemblée nationale particulièrement fracturée, comme rarement on a eu, avec 11 groupes politiques. Je crois que c'est inédit sous la Ve République, un tel nombre de groupes. Donc on peut dire effectivement qu'on est dans une crise politique et peut-être que c'est plus profond que ça, et c'est le deuxième point que je voulais partager avec vous, tout ça s'inscrit dans une évolution ancienne. Dire là, effectivement, les choses sont énormes, on pourrait dire que c'est paroxystique, mais on a des signes avant-coureurs de la crise depuis très longtemps. On se souvient tous, par exemple, du 29 mai 2005, le référendum sur le traité constitutionnel européen. Les Français avaient voté non massivement, alors que les parlementaires, à 96%, avaient approuvé le traité. Et après, le traité rejeté par les Français avait été imposé par le président Sarkozy avec l'aide du Parti socialiste et de François Hollande. Depuis des années, on voit l'abstention monter, sauf peut-être parfois aux élections présidentielles. Et aux élections présidentielles, on a eu, en y étant, si vous vous souvenez, des résultats indiquaient déjà qu'on était en crise. Déjà la présence de l'extrême droite à un très haut niveau, mais à plusieurs reprises, on a eu notamment, je crois que c'était en 2017, un second tour de la présidentielle. Enfin, on avait à la fin du premier tour de la présidentielle quatre candidats dans un mouchoir de poche, alors que la tradition c'était qu'on avait deux qui se détachaient. Donc voilà, on a une crise, mais avec des signes avant-coureurs qui indiquent que c'est quelque chose de très profond et que peut-être on est davantage que dans une crise politique, dans une crise de régime. La troisième idée que je voulais partager avec vous, c'est que la Constitution de 1958, qui nous régit depuis plus de 60 ans maintenant, elle a été approuvée par référendum, c'est vrai, mais elle a toujours été critiquée. On se souvient du livre de François Mitterrand, Le coup d'État permanent, mais on se souvient aussi de Pierre Mendès France, qui dénonçait ce qu'on constate tous les jours, un déséquilibre incroyable en faveur de l'exécutif, du gouvernement, un Parlement qui est structurellement écrasé, et un gouvernement qui a tous les moyens, avec le 49-3 par exemple, d'étouffer le Parlement, ce que les juristes appellent d'ailleurs le parlementarisme rationalisé. L'expression déjà aurait dû nous effrayer. Et on sait que les déséquilibres de la Constitution de 58 ont été aggravés par l'élection du président de la République au suffrage universel direct à partir de 1962. L'exécutif est devenu bicéphale à deux têtes, avec un président de la République qui est, lui, inaccessible. Autant on peut en théorie renverser le gouvernement, autant le président de la République, et on le constate tous les jours, est lui complètement irresponsable et complètement inaccessible. Et on peut parer avec les États-Unis qui ont un système présidentiel, mais c'est un système présidentiel qui est d'une certaine manière plus équilibré, puisque le Congrès des États-Unis peut bloquer les lois d'une manière que l'Assemblée nationale ou le Sénat en France ne peut pas du tout effectuer. Alors ce parlementarisme rationalisé, cette manière de renforcer l'exécutif, on peut aussi, je glisse ça dans la conversation, le lier à cette idéologie qui s'est imposée après 1945, qui est l'idéologie qu'on appelle managériale. Vous savez, après 1945, on a tous les managers, les gens qui font des tableaux, qui nous parlent de bonne gouvernance, qui sont inspirés par le monde de l'économie et qui ne jurent que par ce qu'ils appellent l'efficacité et qui ont transposé aux institutions les logiques qu'ils appliquent dans les entreprises. Donc on est aussi, depuis 1945, dans ces logiques d'entreprise, ces logiques managériales, qui sont, et j'ai eu l'occasion de le critiquer dans un article du Monde diplomatique il y a quelques années, qui s'appelait L'art d'ignorer le peuple, appelé la gouvernance ou la bonne gouvernance. Donc, on a un système déséquilibré qui ne fait que s'aggraver au fil du temps, sous les prétextes les plus divers. Et les forces politiques, et ça je sais pas trop quoi en faire, peut-être qu'André Bellon aura des commentaires à faire là-dessus, si on reprend l'histoire de la République en France depuis 1792, on s'aperçoit que les grandes forces démocratiques républicaines qui ont porté la démocratie française se sont affaiblies les unes après les autres. Le parti radical qu'on a connu sous la Troisième République, avec les figures de Clémenceau, tous ces gens, et puis Pierre Mendès France plus récemment après la guerre, ce parti radical a quasiment disparu. ce qui a été le socialisme de Jean Jaurès, qui n'a rien à voir avec ce que pratiquent nos camarades socialistes aujourd'hui, disparut lui aussi. Alors, les gaullistes sont, ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, mais on peut-être que dans la crise de notre vie politique, il y a aussi, pour des raisons énigmatiques, la disparition des forces politiques qui étaient supposées porter la République, la démocratie, donc j'ai cité le Parti radical ou le socialisme de Jean Jaurès, qui a complètement disparu. Et puis peut-être pour ceux d'entre vous qui se situent à gauche ou à la gauche de gauche, peut-être qu'on voit aussi les limites de ce qui a été très fort à gauche pendant des décennies, peut-être même plus que ça, qui était l'idée qu'il fallait prendre l'appareil d'État, qu'il suffisait de prendre l'appareil d'État, et puis une fois qu'on avait l'État, eh bien on pouvait imposer notre programme. Bien, on a vu sous la Ve République que quand la gauche, quels que soient les guillemets qu'on y met, prenait l'appareil d'État, ça changeait pas grand-chose. Et que des gens qui avaient critiqué l'autoritarisme du général de Gaulle, l'autoritarisme de la droite, eh bien ils endossaient assez facilement, ils enfilaient assez facilement la veste de l'autoritarisme. Et là, je vise évidemment François Mitterrand, auteur du coup d'État permanent, qui a été finalement, mis à part les 2 premières années de son mandat, un président de la Ve République tout à fait autoritaire, surplombant, capable de faire des coups, ne démissionnant pas quand il perdait les élections, manœuvrant, utilisant le 49-3. Peut-être qu'André nous racontera des choses sur ce qu'il a vécu en tant que parlementaire sous Mitterrand. Donc finalement, on se rend compte que on a beaucoup réfléchi à gauche sur la prise de l'appareil d'État, mais l'exercice du pouvoir. Peut-être qu'on n'a pas assez réfléchi à l'exercice du pouvoir. Qu'est-ce que c'est qu'un exercice de gauche du pouvoir? Je crois que c'est Michel Foucault qui disait le pouvoir ne se prend pas, il s'exerce. Et c'est vrai que les réflexions de la gauche sur l'exercice du pouvoir, quand on voit nos organisations, les syndicats, les associations, les partis politiques, je suis pas convaincue qu'ils exercent le pouvoir d'une manière plus progressiste ou démocratique que la droite. Donc tout ça pour vous dire qu'on est dans une crise extrêmement profonde et que, à mon sens, on est arrivé à la fin de ce rêve qui consistait à dire, mais peut-être que c'est des choses dont on pourra discuter ensemble, de ce rêve qui consistait à dire on peut changer le système de l'intérieur. Il suffit qu'on gagne les élections, qu'on ait le bon candidat à l'élection présidentielle, on changera le système de l'intérieur, on transformera le régime de la Ve République en régime démocratique. Il me semble qu'on a essayé depuis 30 ou 40 ans, et que toutes les expériences qu'on a faites, la gauche plurielle, les alliances machin, tout ça, finalement, nous a conduit à chaque fois à des formes d'échec plus ou moins nettes. Et il me semble qu'on arrive au bout de cette idée qu'on peut réformer le système de l'intérieur et qu'il faut songer à changer de constitution, à passer à une 6e République ou peut-être même carrément à la 7e République pour aller plus vite. Mais qu'en tout cas, les solutions à l'intérieur du système me semblent assez utopiques. Et qu'il faudrait envisager donc un changement plus radical en s'arrangeant et en se mobilisant pour que ce soit le peuple qui le décide sur la base des principes de la démocratie, de ce qu'on appelle en France la République. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant.
Même audio, une mémoire sonore.
Merci beaucoup Anne-Cécile et je vais passer la parole à André tout de suite. À toi André.
Eh bien, merci. D'abord, merci à tout le monde d'être à cette réunion. Merci à Dany et à Jean-Pierre d'en avoir pris l'initiative. Et merci de m'avoir présenté. C'était presque trop élogieux. Cela étant, je ferai juste une remarque. J'insiste sur le fait que je suis Marseillais. Ça, c'est pour moi fondamental. Et que donc, en tant que provençal, c'est pas Belon, mais Bellon. Bellon venant de Belle ou de Bail, qui veut dire le berger en provençal. Voilà, après cette précision qui n'a aucun intérêt, mais qui me fait plaisir, je reviens au sujet. Constituante ou lepénisme? Bon, ça fait écho à un article que j'avais fait dans Le Monde diplomatique en 2014, je crois, qui s'appelait « Bonapartisme ou constituante ». D'une certaine façon, ça dit la même chose autrement, à savoir que bonapartisme, ça veut dire régime autoritaire, et constituante, ça veut dire recherche de la liberté et de la démocratie. Voilà, pour faire bref. Alors, pourquoi se poser cette question? Ben parce que, comme l'a dit Anne-Cécile à l'instant, il y a une crise de régime. Une crise de régime. Alors, toutes les forces politiques installées expliqueront que, mais non, il n'y a pas de crise de régime. C'est pas pour ça qu'il n'y en a pas. Et en particulier, les gaullistes insisteront sur le fait que c'est la cinquième, on y tient, c'est notre histoire. Oui, certes, d'ailleurs, est-on encore dans la cinquième, ça mériterait réflexion, mais au fond, ça n'a plus une très grande importance. Non, je crois que la situation est catastrophique et il faudrait enfin regarder dans quel état politique et le pays aujourd'hui. Ce qui m'amène, parce que je crois que ce qui est important dans un débat comme on le fait aujourd'hui, c'est de poser des questions et après d'essayer collectivement de les approfondir. Ce qui m'amène à une première question qui peut paraître un peu bizarre. Y a-t-il encore une vie politique en France aujourd'hui? C'est-à-dire une vie politique au sens aristotélicien, quoi, la recherche d'un certain bien par la communauté. Mais y a-t-il encore une communauté nationale? Y a-t-il encore une vie autour de cette recherche? Ou y a-t-il au contraire des choses un peu essaimées qui cherchent, bon, à la fois sans doute honnêtement pour la plupart d'entre elles, hein, à définir ce qu'ils appellent un programme? Programme qui est contraint par des tas de choses qui s'appellent la mondialisation, l'Union européenne, et j'en passe, la gouvernance, comme disait à l'instant Anne-Cécile. Bon, y a-t-il encore une vie politique? Ça, c'est une première question. Et du coup, une deuxième, pour qu'il y ait une vie politique, ben, il faut qu'il y ait une société humaine, une société politique. Hein. Y a-t-il encore une société? Y a-t-il encore un peuple français? Pour qu'il y ait une société, alors je ne reviens pas à Madame Thatcher qui au moins avait répondu à la question, la société ça n'existe pas, dans une interview assez célèbre. Bon, est-ce qu'au fond elle n'avait pas dit ce qui est la réalité aujourd'hui? C'est pas la peine de se raconter des histoires et de travailler sur quelque chose qui n'existe pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a plus de contrat social. Il n'y a plus de contrat social, or il n'y a pas de république s'il n'y a pas de contrat social. Et s'il n'y a pas de république et de contrat social, d'une certaine façon, il n'y a pas de démocratie. Parce que sur quoi va-t-on créer le débat? Sauf sur des questions annexes qui, de toute façon, lorsque la bonne réponse n'est pas donnée, seront remises en cause. L'exemple, alors là, particulièrement symbolique, 2005. Les Français donnent un vote particulièrement peu contestable, hein, 57% ou quelque chose comme ça, 60 et quelques, mais avec une participation assez exceptionnelle. Bien. Et puis le président qui arrive, Sarkozy, décide qu'il n'en a rien à faire et donc bafoue le vote en faisant exactement ce qui était décidé par le traité constitutionnel européen avant. Alors, j'entends bien que certains, soudain, nous expliquent « Oui, mais est-ce que c'est vraiment là-dessus que les Français ont voté ?» Bah, de toute façon, c'est pas à eux à poser la question. Les Français ont voté comme ils ont voté. Et de toute façon, si on a un doute, ben, il fallait refaire au moins un référendum. Donc là, c'est à mon avis, comme diraient certains, le péché originel. Et on le paye aujourd'hui. Et c'est sur la base de ce défi que nous avons créé l'Association pour une constituante. Association pour une constituante qui dit « Il n'est pas possible dans le cadre des institutions actuelles de revenir à la vie démocratique normale, hein, il est nécessaire de reposer la question. Et pour reposer la question, ben, il faut passer par le retour à la case peuple, le retour à la case peuple de façon démocratique, c'est-à-dire donc l'élection ou de quelque chose qu'on appelle historiquement une constituante. En France, il y en a eu 6 dans l'histoire, ça ne serait jamais que la 7e. Mais il faut repasser par la case peuple. Alors, soit dit en passant, ça correspond à ce qu'il y a théoriquement dans la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, article 3, hein, la souveraineté nationale appartient au peuple, etc., etc. Le général de Gaulle, bon, évidemment, on ne va pas le faire parler alors qu'il a disparu, mais avait dans l'idée qu'il y avait conjugaison entre un pouvoir fort et une possibilité d'expression du peuple qu'il voyait dans le référendum. Avec évidemment plus que des nuances, puisque c'est lui qui décidait s'il y en avait ou il n'y en avait pas. Il reste que quand il a perdu un référendum en 69, il est parti. Et que depuis lors, ceux qui ont fait des référendums, s'ils les perdent, ne partent pas, et de toute façon, il a décidé qu'on ne fera plus de référendum. Hein. C'est Bruxelles qui l'a décidé après l'échec du TCE. Voilà. Donc, dans les discours, on prétend qu'il y a un peuple. On prétend d'ailleurs qu'il y a des élections et que le peuple donne des élus, sauf que quand le peuple s'exprime et que c'est pas bien, on n'en tient pas compte. Or, il y a eu beaucoup de signes comme quoi ça n'allait pas. Bon, je ne reviens pas sur 2005 et le traité de Lisbonne, mais les Gilets jaunes, d'une certaine façon, sont une expression, je ne dis pas qu'ils étaient le peuple, mais ils ont exprimé d'une certaine façon le mot « peuple » à leur manière. La réponse a été une répression quand même assez dure, avec un certain nombre de personnes qui en sont sorties handicapées, avec un œil en moins. Bon, il y a eu les manifestations paysannes. Donc, il y a eu des appels. Et parallèlement, se développe un discours qui est largement repris par tous les porte-parole officiels dans ce qu'on appelle les télévisions mainstream, même si j'aime pas ce genre d'expression, qui est le peuple, attention, c'est vilain, pas beau, on ne sait jamais quand il s'exprime, il dit des choses abominables dans l'histoire, etc., etc., etc. Donc, déconsidération du principe du peuple, et dans la pratique, on n'en tient pas compte. Et que va-t-il se passer dans ce cadre? Ben, il va se passer ce qui est logique, c'est que le parti qui va attirer, dans le cadre tel qu'il est, parce qu'il apparaît comme un peu en dehors du cadre, c'est le RN. Il me semble que la logique dans le cadre institutionnel actuel mène probablement au RN. Je ne dis pas que je le souhaite, je dis qu'il y a une logique. Soit dit en passant, le RN est un des meilleurs défenseurs de la Ve République. Marine Le Pen a toujours dit qu'elle trouvait qu'il était parfait et qu'il n'y avait rien à y retoucher. Donc, il faut absolument voir que ce débat, il est inévitable. Alors évidemment, je ne dis pas que tous les partis disent exactement la même chose. Il y a heureusement des différences, hein, on le voit bien en particulier sur les questions fiscales, sur le minimum social, etc., etc. Il reste que globalement, tout cela s'inscrit dans quelque chose qui n'est pas contestable et qui est géré par un ensemble dans lequel tous les partis baignent, tous. Alors, y a-t-il possibilité d'en sortir avec le système actuel? Je ne le pense pas. Hein. Comme disait Einstein, on ne résout pas un problème avec les moyens qu'ils ont créés. Mais surtout, je reviens à un débat qui a eu lieu en 1789. En 1789, vous savez que le roi convoque les États généraux pour parler d'impôts nouveaux parce qu'il y avait une dette considérable, ce qui nous rappellerait un peu la situation actuelle. Donc, ils demandent qu'on paye plus. Que répond le tiers-État, d'une certaine façon? Il répond, peut-être qu'il faut qu'on paye, mais à ce moment-là, il faut savoir qui est-ce qui gouverne. Si c'est vous qui êtes le roi et qui décidez, nous, on ne paye pas. Si vraiment il faut payer, eh bien, à ce moment-là, il faut changer les institutions, il faut changer la nature du pouvoir, il faut changer l'organisation du pouvoir. Et donc, il faut revenir à un concept différent. Et c'est comme ça qu'on change un pouvoir royal, monarchique, absolu, en ce qu'on appelle une république après que le roi a été renversé le 10 août 1792. Et c'est comme ça que les sujets deviennent citoyens. Alors je ne prétends pas magnifier non plus, c'est loin d'être aussi lisse, mais il n'empêche que la question du pouvoir, elle est posée dès l'origine. Et aujourd'hui, elle est posée aussi. D'accord, il faut des réformes, qui est-ce qui les décide? Eh bien, s'il s'agit des réformes institutionnelles, naturellement, c'est au peuple, par le biais des élections, parce que c'est comme ça que démocratiquement on fait fonctionner une institution en République et en démocratie. Donc, on appelle ça une constituante. Alors, pour nous, c'est pas n'importe comment, c'est pas uniquement avec les partis actuels, c'est sans doute suivant une tradition d'ailleurs qui est assez profonde en France, sans doute à partir de l'élément local, c'est-à-dire des communes, au niveau d'assemblées communales qui se saisissent petit à petit de ces questions, tout en les liant bien entendu à toutes les questions sociales auxquelles ils sont confrontés. Mais le lien se fait naturellement. On nous pose un problème social, économique, fiscal, et on pose nous un problème du pouvoir, et on relie les deux choses. C'est cela qu'on appelle une constituante. Je crois que la question inévitablement sera posée. La question qui se pose en corollaire aujourd'hui, c'est qui pose la question des institutions? Alors, un certain nombre d'experts expliquent que c'est eux parce qu'ils sont doués et puis ça va plus vite. Nous, ça fait des années qu'on le dit et qu'ils nous expliquaient que c'est trop tôt. Maintenant, ils expliquent que c'est trop tard. Mais ça ne peut pas être en dehors d'une volonté populaire globale, c'est-à-dire une expression démocratique de l'ensemble des citoyens. Et donc, quelque part, la constituante, c'est la manière d'éviter justement le dérapage vers ce qui apparaît le mole un peu stable, le RN, et c'est la manière de recréer la vie politique et donc le corps politique naturel souverain qui s'appelle le peuple. Voilà, c'est ça la nature de la constituante. Et puis après, j'ai posé un certain nombre de questions au passage et on pourra y répondre bien entendu.
Merci André.
Même audio, une mémoire sonore.
Maintenant, la parole est à Jean-Pierre qui va se faire votre interprète. Et je te propose, Jean-Pierre, de nous donner trois interventions du chat.
Oui, intervention, il y en a. Ça a été modéré d'une certaine manière, il n'y en a pas beaucoup, il y a des affirmations, mais entre autres, il y a une qui pose la question, sous cette forme-là, la population reste peu participative sur la durée. Et une question corollaire un petit peu à celle-ci, comment vous définissez un peuple? Comment vous définissez un peuple? Là, je crois que c'est assez bien formulé. Alors, une autre remarque aussi, ça a été de dire, mais je crois que André y a déjà bien répondu, sur le thème « Pourquoi avoir appelé cette rencontre constituante ou le pénisme ?» Parce que ça aurait été peut-être suffisant de dire « constituante ou bonapartisme ». Mais je crois que André a déjà répondu en partie. Et une autre question qui est un petit peu qui mérite peut-être une réponse aussi. Une constituante, pour quel type de constitution? Alors, c'est un peu poser la question qui est dans la réponse. Mais voilà, c'est une des questions. Il y a quelques affirmations de plus, mais pas beaucoup de questions de plus. Si vous pouvez attaquer là-dessus. Je vais peut-être en rajouter une, là, qui vient d'arriver. Que la volonté populaire est plutôt en phase avec un pouvoir autoritaire, me semble-t-il. Alors ça, c'est ça mérite là peut-être une réflexion. Voilà, à vous.
Je commence.
Oui, vas-y, André.
Alors d'abord sur le mot peuple. Ça, c'est une question éternelle. Donc, je pense qu'on n'aura pas fini à l'issue de cette réunion de la traiter, mais je vais reprendre un certain nombre de choses qui ont déjà été évoquées largement dans l'histoire, et beaucoup mieux que par moi. En général, je réponds en disant les Grecs anciens, je précise, j'ai jamais fait de grec, mais ça, je connais ça, avaient trois mots pour dire peuple. Je crois que c'était bien qu'il y ait des mots différents. Ils avaient le mot laïos. Laïos, c'est la populace. C'est les gens pris en masse. Voilà. Et je crois que dans le discours officiel de tous ceux qui sont contre la démocratie, tout en disant qu'ils sont pour, bien entendu, c'est le laïos dont ils parlent. Un peuple, ça fait peur, on ne sait jamais ce qu'il a fait, c'est la violence, enfin j'en passe. Il y avait un deuxième mot, c'était ethnos, c'est-à-dire une vision ethnique des citoyens. Bon, c'est pas de celle-là que nous parlons. Le troisième, c'était demos, c'est-à-dire un corps politique constitué. Et c'est bien de celui-là qu'il s'agit. Et nous pensons, mais ça fait partie du débat, que le cheminement vers la constituante, parce qu'au fond c'est le cheminement qui est le plus important que l'aboutissement, le cheminement permet de reconstituer ce démos. Et quand on dit le peuple, quelque part, il est à Athènes, il est là, oui et non. Les Gilets jaunes, c'est pas à Athènes. Bon. Le vote de 2005, c'est pas à Athènes. Il y a eu des trucs. Simplement, à force de se faire taper dessus, on se dit, pourquoi dire, laisse se faire taper dessus une fois de plus si ça sert à rien. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas une attente. Je crois qu'il y a une attente. Et cette attente peut prendre des formes très différentes. Et elle peut prendre la forme d'attendre un gouvernement autoritaire. C'est bien pour ça que je dis, dans le cadre du système actuel, la logique mène au RN. Ce n'est pas que ça me fait plaisir, c'est qu'il y a une logique. Et qu'on cherche à l'éviter, justement. Donc, alors pourquoi avoir changé le Bonapartisme? D'abord, c'est pas moi qui ai fait le titre, mais il me déplaît pas tel qu'il a été fait, parce que quelque part il y a une forme bonapartiste dans le pénisme, oui, c'est-à-dire il y a l'idée qu'un régime autoritaire qui permet d'empêcher tout ce qui dérive est la meilleure des formules dans la période actuelle. Il faut opposer à ça un discours démocratique. C'est mieux. C'est mieux, et c'est ce que nous proposons, et c'est cette alternative, elle va s'imposer. Le problème, on peut la voir autrement, mais je voulais pas le dire d'entrée de jeu, parce que, alors là, pour le coup, ça aurait entraîné un tas de réactions, ça peut être, dans l'état actuel des choses, le peuple contre les partis. C'est-à-dire le peuple qui recrée la vie publique, en dehors d'un espace politique qui est en faillite. Bon, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que les partis pour autant sont inutiles, heureusement d'ailleurs qu'ils existent, parce qu'au moins ils font vivre quelque chose qui s'occupe de problèmes tout à fait concrets. On va le voir à l'Assemblée dans les jours qui viennent. Mais d'une certaine façon, c'est une manière de dépasser la vie politique qui est moribonde. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à tout.
Merci André. Anne-Cécile, c'est à toi.
Oui, pour compléter ce qu'a dit André, il est effectivement extrêmement important de s'accrocher à la définition du peuple, pour ce qui nous concerne quand on réfléchit à la démocratie, comme communauté politique. parce que on est confronté à des revendications identitaires très fortes qui veulent fractionner notre peuple sur des bases micro-identitaires, voire ethniques, voire raciales. Et on a la chance en France d'avoir hérité de la Révolution française de cette idée que le peuple est une communauté politique, c'est-à-dire tous les citoyens qui se reconnaissent dans le projet commun, dans un destin commun, peuvent participer à la vie politique. Et c'est ce qui fait que on peut se rassembler pour construire ensemble au-delà des tentations identitaires qui nous menacent. L'autre chose que je voulais dire, c'est la remarque sur le fait que le peuple semble peu ou la population peu participative, peu mobilisée, elle est vraie et elle est à mon avis questionnable. Parce que il est très difficile, et c'est l'une des difficultés de la situation, de savoir ce que pensent les citoyens aujourd'hui. Précisément parce que nos institutions, notre vie politique, ne permettent pas de donner une image claire et nette de ce que pensent les citoyens. Parce qu'il y a les jeux des partis, parce qu'il y a le mode de scrutin, et on l'a vu avec les dernières législatives, avec la logique du barrage républicain, qui a été un sauf qui peut peut-être utile, mais qui a complètement brouillé l'interprétation du vote. Et donc là, moi, je serais bien en peine de savoir ce que les Français ont en tête, ce qu'ils ont envie de, ce dont ils ont vraiment envie. On a des signes quand même, André citait les gilets jaunes. Mais sur le nombre de grèves, sur toutes les initiatives qu'il y a en province, sur tout ce qui se passe dans le monde associatif, qui nous indique qu'il y a quand même un intérêt pour ce qui se passe autour, un intérêt des citoyens pour ce qui se passe autour d'eux, mais que cet intérêt n'est pas matérialisé parce que le jeu politique, la vie politique, les institutions ne permettent pas aux gens de s'exprimer, de s'y reconnaître. C'est vrai que on voit naître, et la droite et l'extrême droite l'utilisent, une demande d'ordre, une demande d'autorité, mais qui n'est peut-être que, j'allais dire, un pis-aller, quelque chose qui émerge en l'absence d'autre chose. Si on prend au sérieux ce qui s'est passé il y a presque 20 ans avec le 29 mai 2005 ou avec les gilets jaunes, on voit aussi qu'il y a une demande de collectif. Si on regarde ce qui se passe dans l'univers associatif, on voit qu'il y a une demande aussi de faire communauté, de faire collectif. Donc on a aussi des signes contraires. Et on voit quand même dans ce qui s'est passé aux dernières élections, même si c'est difficile à interpréter, qu'il y a eu au second tour un rejet de l'autoritarisme. Sinon, comment comprendre le barrage républicain ? C'est bien qu'il y a un rejet. Donc on a des signes très très contradictoires. Rien n'est joué, voilà, rien n'est joué. Et c'est pour ça qu'il est important que les citoyens, comme on le fait ce soir en discutant, investissent l'espace pour mettre des idées plus positives que celles que les médias dominants, les CNews et autres, nous mettent en permanence à flux tendu pour nous faire croire qu'en fait on a envie d'ordre, qu'on a envie de chef, qu'on a envie, etc. Rien n'est moins sûr et il faut qu'on soit présent pour donner prise aux citoyens, pour donner des espaces pour que des idées plus positives, plus démocratiques, plus républicaines, aurait-on dit à une époque, puissent s'exprimer.
Merci beaucoup Anne-Cécile. Donc la parole retourne vers Jean-Pierre. Est-ce que tu as noté quelques interventions dans le chat ?
Je vais citer deux interventions qui sont aussi des commentaires en même temps. J'ai peur que quand on parle de peuple, on se rapporte aux sondages et aux discours médiatiques de droite, ce qui nous donne une fausse image des désirs du peuple. De plus, les moments de vote sont plus marqués par l'abstention que par le choix, donc pas très représentatifs. Comment savoir ce que veut réellement le peuple ? Et alors, bon, ça c'est un premier commentaire et une question en même temps. Comment imposer la démocratie par et pour le peuple lorsque ce même peuple est éclairé par des médias mainstream qui, eux, ne veulent pas de démocratie véritable, car aux mains de l'oligarchie dominante. Et il y en a une autre, bien sûr, qui se réfère à la constitution d'une constituante, hein, je dirais. Comment seraient élus les constituants? Donc, avec des options proportionnelles, soutien, scrutin uninominal ou tirage au sort. Voilà. Avec ça, vous avez de quoi travailler.
Qui veut commencer?
Peut-être une remarque sur effectivement de ce discours permanent, ce matraquage, notamment des grands médias, tous, à quelques exceptions près, bien sûr, qui nous bourrent le crâne avec les faits divers, notamment des choses plus effrayantes les unes que les autres, pour nous faire peur. Il n'y a pas de démocratie dans la peur, mais on voit bien que les médias entretiennent la peur, ils entretiennent la panique et ils poussent vers effectivement des solutions caricaturales, autoritaires et qui par ailleurs correspondent très bien aux intérêts des grands groupes comme Bolloré qui aiment bien que les gens soient des moutons plutôt que des citoyens éclairés. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a quand même de la résistance dans la population. Et on voit par exemple, le succès d'un journal comme Le Monde diplomatique, compte tenu de ce qu'on vient de décrire, est complètement aberrant. Si la mécanique de matraquage des grands médias était aussi puissante, Le Monde diplomatique aurait mis la clé sous la porte, parce que les gens seraient complètement abrutis, ils seraient tous chez Bolloré, ils écouteraient CNews, etc. On a vu le 29 mai 2005 que tous les grands médias étaient pour le oui et pourtant les Français ont voté non. Donc on a quand même des signes que les gens ne sont pas dupes. On voit se développer toutes sortes de médias alternatifs. Des médias comme Blast, des médias en ligne. Il y a toutes sortes de choses qui montrent qu'effectivement il y a une domination de certains discours, de médias réactionnaires, mais il y a aussi toute une volonté des citoyens de s'informer autrement. Et circule, il y a des canaux, il y a sur des canaux différents, une information plus ouverte, plus conforme à des valeurs progressistes. L'autre chose que je voulais dire, c'est que, effectivement, on est bien en peine aujourd'hui de savoir ce que pensent vraiment les Français, que la seule manière de savoir ce qu'ils pensent, c'est de leur donner la parole. Mais dans un cadre qui soit évidemment un cadre démocratique. C'est pour ça que moi je me suis ralliée à l'idée d'élire une assemblée constituante. C'est parce que dans l'histoire de France, quand on a fait appel au bon sens des citoyens français, quand on a convoqué des assemblées constituantes, eh bien les Français sont plutôt mobilisés de manière ouverte, démocratique, et jamais les Français n'ont voté démocratiquement pour des dictateurs. Les dictateurs qu'on a eus en France, ils sont imposés par des coups d'État. Le 18 Brumaire pour Napoléon Bonaparte, Maréchal Pétain par le coup d'État du 10 juillet 1940. Donc, mais quand on a demandé aux Français par un vote ce qu'ils pensaient, ils ont choisi, sur un spectre différent qui va de la droite à la gauche, des solutions démocratiques. Et avec le 29 mai 2005, on a eu une expérience d'une démocratique particulièrement illustrative, je trouve, du goût des Français pour la politique. Et finalement, après, quand même sur un débat assez long et sur un sujet compliqué, un vote éclairé. Donc on a quand même, je trouve, des signes, et même ce qui s'est passé aux dernières élections, on a des signes de citoyens qui ont envie de se mêler, justement, de la vie démocratique, ils veulent pas s'en laisser convaincre et qui veulent exprimer un vote éclairé. Après, je sais pas, André, si tu veux compléter sur l'élection de la Constituante et tout ça.
On va essayer. Bon, comme Cécile a dit pas mal de choses, je vais être assez bref. Il y a une remarque générale. On ne peut pas à la fois dire on est démocrate. On est pour la souveraineté du peuple. On est pour que tout soit en débat et que la raison l'emporte, etc., etc. Et lorsqu'il s'agit de le mettre en œuvre, dire c'est pas possible. Ou bien on croit qu'il existe quelque chose qui s'appelle la démocratie. Bon, bien entendu, elle sera pas parfaite. Personne ne pense une seconde qu'elle n'a jamais été parfaite ou qu'elle ne sera jamais parfaite. Mais ce n'est pas un argument pour dire qu'on n'en fait pas du tout. Donc, ou bien on croit qu'on peut avancer dans cette voie. À ce moment-là, on en cherche les moyens, ou bien on met la clé sous la porte, et à ce moment-là, on accepte le gouvernement autoritaire qui, en l'état actuel des choses, à mon sens, est parfaitement clair, sans vouloir revenir sur son nom. Alors, là-dessus, le peuple, les sondages. Ah oui, il y a des gens qui voudraient qu'ils gouvernent par les sondages. Je ne sais plus, la Minc qui adorait ça. Enfin, quand on voit ce qu'il pensait sur d'autres sujets, comme il s'est toujours trompé, on se dit qu'au moins c'est une bonne référence. Les sondages, c'est des sondages. C'est pas un vote. Et le meilleur sondage qu'il y ait en matière politique, c'est le vote au suffrage universel. Ça, c'est un vrai sondage. Bon. Alors, le peuple, il ne sait pas ce qu'il veut. Si, il sait parfaitement ce qu'il veut. Par exemple, en ce moment, il aimerait bien qu'on change ce qu'il y a et qu'il n'y ait plus la classe dirigeante actuelle. Ben oui. Sauf qu'on lui donne, on lui pose pas cette question-là. Et que s'il y avait la constituante, elle serait posée. Partir de l'idée que, a priori, le peuple ne veut pas, et que s'il sait, et si on lui demande, il arrive à des conclusions absurdes, premièrement, c'est déshonorant pour l'idée de peuple, pour l'idée de citoyen, et deuxièmement, c'est contraire à l'histoire. Mais si on pense ça, moi je conseille à ceux qui pensent ça d'aller plutôt faire de la pétanque que de la politique. C'est plus sympathique, ça va plus, c'est plus simple. Alors là-dessus, s'est développée une idée assez, a priori assez curieuse, qui est celle du tirage au sort. Alors, je passe d'ailleurs sur cette expression bizarre, on élit par tirage au sort. Mais par définition, si un tirage au sort, on n'élit pas. Hein. Une élection, c'est justement pas un tirage au sort. Bon. Donc, si on tire au sort, c'est-à-dire pas par élection, on a des gens tirés au sort. Je vois pas en quoi ils sont représentatifs du peuple. Je ne vois pas en quoi ils sont capables de porter la parole de l'ensemble des citoyens. C'est des gens tirés au sort. Alors parfois, on me dit, oui, mais on le fait en tenant compte des catégories socioprofessionnelles, je ne sais pas trop quoi. Alors comme Dany l'a rappelé, étant moi-même administrateur de l'INSEE, je tiens à dire, une représentation statistique n'a jamais rien à voir avec une représentation politique. La seule représentation politique, c'est celle que donnent les élections. Alors, c'est vrai qu'un certain nombre de... J'en cite un dans mon article, Dominique Rousseau, parce que il me paraît particulièrement symbolique, puis qu'il se répand partout. Bon. Disent, oui, mais alors, on prend des gens tirés au sort et il y a des experts qui les encadrent. Ben oui, et quelle réponse ils vont donner? Ben celle des experts, bien entendu. Là, il y a une espèce de pouvoir de la technique qui va s'imposer naturellement. On l'a bien vu dans la loi, dans la Convention climat, d'ailleurs. Bon, à quelques nuances près. C'est bien ceux qui encadrent qui donnent leur solution. Donc, le tirage au sort, ça n'a rien à voir, enfin, à notre sens, avec la vie politique normale et en tout cas pas avec la démocratie. C'est un système de représentation qui n'est pas représentatif.
Même audio, une mémoire sonore.
Jean-Pierre, on se tourne à nouveau vers toi.
Oui, oui, là, les questions se multiplient maintenant. Hein, le débat se construit là. Hein. Alors, je reprends ce qui est que j'ai remis en forme un petit peu. Alors, un commentaire. Les partis politiques empêchent l'émergence citoyenne. D'autre part, est-ce que l'expérience mise en place par les municipalités de cahiers de doléances, même minoritaires, ni assez valorisées, ne constitue pas les prémices d'assemblées communales vers une constituante? Ça, c'est une question que l'on peut compléter par « Mais comment, avec de telles expériences, gilets jaunes, cahiers de doléances, faire naître le désir de constituante ?»
Bon, alors, je vais commencer. Ça, tu vois.
Je continue quand même de noter tout ça parce qu'il y en a qui ça se complète un petit peu tout ça. Hein. Changer de constitution, qui va le décider? aujourd'hui, beaucoup envisagent un changement avec l'utilisation de la violence, me semble-t-il. C'est une question aussi. Hein. Et une question pour André. André, tu parles de partir de la commune. Pourquoi pas? C'est la communauté de base, mais comment ensuite agréger les éléments qui seraient élaborés? Donc, ça rejoint un peu la question précédente. Puis après, bon, je le cite aussi, sur le tirage au sort, il y a débat sur ce point. Comment donner au hasard ce qui revient à la raison? On a l'expérience de l'élection, elle est en rien un rempart. Voilà. J'en garde pour la suite.
Allez, André, c'est toi qui as la parole.
Les partis politiques empêchent la constituante. Ben oui, par définition. Parce que la constituante, c'est la remise en cause des partis tels qu'ils sont. Donc, il est bien évident que ce n'est pas eux qui vont le souhaiter. Ou s'ils le souhaitaient, il faudrait que ça soit la leur. C'est évidemment pas ce que nous souhaitons. Nous avons dit, je crois que c'est Anne-Cécile au départ qui l'a rappelé, nous souhaitons que la constituante soit, l'élection de la constituante soit précédée des cahiers de doléances. Donc, on est absolument d'accord là-dessus. Lorsque Macron s'est trouvé confronté aux Gilets jaunes, parce que il n'est pas totalement idiot, il a compris qu'il fallait faire un petit geste. Il a donc appelé à des débats qui servaient à rien, que c'était en gros un débat entre lui et lui. Et puis, il a appelé à des cahiers de doléances. Ces cahiers de doléances existent. Ils sont restés dans les mairies, personne n'en fait rien, mais ils existent. Il y a une association qui s'appelle Rendez les doléances, qui est animée par un de nos membres, d'ailleurs, de l'association de droits constituante, qui essaie de ressortir ces cahiers de doléances pour leur redonner vie, pour leur redonner sens. Donc, c'est un travail collectif, tous ceux qui veulent y participer devraient le faire. Ça peut être un objectif. Aller dans les mairies, demander à les revoir. Alors, il y a des maires qui diront non, il y a des maires qui diront oui. Alors, le peuple, oui, il y a des tendances de violence, il y a d'autant plus de tendances de violence qu'il n'y a pas d'issue, ou du moins pas d'issue visible. Et moins il y aura d'issue visible, plus il y aura de recherche par la violence. Et quelque part, l'idée de l'élection d'une constituante, c'est aussi une manière de faire obstacle à la violence. Nous disons toujours, c'est la forme pacifique, démocratique et rassembleuse de reconstituer la démocratie. Donc oui, il y a bien cette idée-là. Mais si on ne vient pas à ce genre d'idée, disons la reconstitution du peuple et de la démocratie dont il est propriétaire, puisque c'est un bien public, oui, il y a des risques de violence. Alors, le tirage au sort ou la raison, tout ce qui est soumis au hasard, pour moi, qui est une formation, paraît-il, scientifique, c'est contraire à la raison, bien entendu, oui. La raison, c'est un travail de soi avec soi et avec les autres, c'est-à-dire à la fois un travail individuel et un travail collectif, et en aucun cas c'est un truc qui est soumis au hasard tel qu'il soit. C'est effectivement retour à une vision que j'appellerais, pour faire bref, humaniste de l'individu. Voilà.
Anne-Cécile, c'est à toi.
Il me semble important de bien repartir du début, si j'ose dire. C'est pour ça que l'idée de constituante, d'élire une constituante m'a séduite. C'est parce que on est confronté non seulement à un problème d'institution, de constitution, mais à un problème de pratique politique et de mœurs politiques. Le comportement d'Emmanuel Macron, qui est autoritaire, hautain, est-ce qu'il aurait été possible si pendant des années, François Mitterrand, qui était supposé incarner la gauche, n'avait pas lui-même pratiqué les institutions d'une manière méprisante? Il nous a menti sans arrêt, il a fait des coups, il nous a menti sur son passé, il a lui-même fait monter l'extrême droite pour des raisons opportunistes, et je dis ça parce que je trouve autour de moi des camarades, des amis de gauche qui ont encore des portraits de François Mitterrand dans leur bureau, leur chambre et je me dis, il faut vraiment qu'on ouvre la boîte noire du mitterrandisme parce que sinon on n'y arrivera pas. Il s'agit pas de se dire on va juste changer les têtes et ça ira mieux. Et c'est pour ça que l'élection est importante et que le tirage au sort est une erreur. C'est parce qu'il n'y a que l'élection qui peut repolitiser. Il n'y a que l'élection qui recrée un espace public entre chacun, sans sélection, et qui recrée du lien, qui recrée du commun. Le suffrage universel en France est une conquête politique. On a fait des barricades pour ça. On a fait des révolutions pour ça. Il y a des gens qui se sont fait tuer pour ça. Et c'est à la fois une méthode et un résultat. C'est une manière de vivre la politique et c'est une manière de trancher les différends. Et souvent, ce qu'on reproche au suffrage universel, c'est la dérive, c'est des pratiques, c'est pas ce que le suffrage universel est intrinsèquement. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, on voit des manipulations, mais c'est le fait de la pratique, c'est pas le système lui-même. Et donc, il y a un vrai enjeu pour tous les démocrates à réinvestir le suffrage et à reconquérir, j'allais dire, culturellement, la démocratie. Et peut-être que, effectivement, comme le disait André, c'est par les communes qu'il faudra recommencer, parce que la démocratie communale, elle remonte au Moyen-Âge en France. Hein. On a une très longue, on a des siècles de démocratie communale sous Philippe le Bel, etc. Il y a 700 ans, il y avait déjà des assemblées communales. On a, et je fais le lien avec une autre conversation que j'avais avec le camarade de Gabriel Périès que je vois en ligne. C'est vrai qu'il y a des expériences de constituantes dans d'autres pays qui n'ont pas forcément donné les résultats qui auraient été souhaités, mais l'histoire de France, c'est pas l'histoire des autres pays. On a une expérience démocratique très ancienne. On a la Révolution française. On a 1789. On a tout le 19e siècle. On a toutes ces luttes démocratiques qui font qu'on est peut-être un peu mieux outillé ou un peu mieux préparé que d'autres. Après savoir ce que le peuple français convoqué par l'élection d'une assemblée constituante dira, je ne le sais pas. J'ai la faiblesse de penser qui tranchera dans le bon sens, parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on a demandé jusqu'à présent, depuis 200 ans, leur avis aux Français par des élections, ils ont plutôt répondu intelligemment. Et quand ils ont fait des erreurs, ils ont corrigé tout de suite. Peut-être qu'ils trancheront, peut-être que ils diront, ben nous, on veut un système à l'américaine, avec un système présidentiel. Peut-être qu'ils diront, ben finalement, la Ve République version 58, c'est bien. Ou peut-être qu'ils voudront un régime parlementaire. Moi, j'ai une faiblesse pour les régimes parlementaires. Je pense que c'est les plus vivants, que c'est les plus intéressants. D'ailleurs, c'est intéressant de voir la panique qu'il y a aujourd'hui chez les partis politiques parce qu'ils ont perdu l'habitude de la vie parlementaire. Donc l'idée de faire des coalitions, de faire des alliances, de renverser des gouvernements, ils savent plus faire, ils sont complètement paniqués, ils cherchent le chef, ils sont déjà tous en train de chercher le candidat à l'élection présidentielle, alors qu'il y a un jeu politique parlementaire qui pourrait peut-être être intéressant à exploiter. Donc moi je préfère le régime parlementaire, mais j'admets très bien qu'on préfère un régime présidentiel. En revanche, je pense que le système qu'on a aujourd'hui en France, c'est un mélange des défauts de tous les systèmes. C'est ni le système présidentiel américain, ni le régime parlementaire italien. On a pris le pire du parlementarisme, le pire du présidentialisme, et on a construit une espèce de système complètement bloqué. Donc je pense qu'en tout cas, il faut sortir de la Ve République telle qu'elle est aujourd'hui pour trancher dans un sens ou dans l'autre. Mais on peut plus rester dans ce système qui je crois, est le plus autoritaire de tous les systèmes occidentaux.
Si Dany permet, je voudrais rajouter un mot que j'ai complètement oublié, mais c'est Anne-Cécile qui m'y a fait penser. La question des communes. Bon, je ne reviens pas sur ce qu'Anne-Cécile a dit, mais sur le rapport de la démocratie et des citoyens avec les communes. Bon, il y a cette idée aujourd'hui qui consiste à dire pour être plus démocratique, revenons à la proportionnelle. Pour moi, dans le système actuel, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire, effectivement, ça représentera mieux les parties telles qu'ils sont, mais ça veut dire qu'on est enfermé totalement dans les parties et on n'en sortira pas. Le fait de passer par les communes, ça veut dire repasser par les citoyens au niveau communal. Bon, j'ai la particularité, après avoir été élu 3 fois, en particulier une fois proportionnelle, alors là, je serais resté à la maison, j'aurais été élu, le proportionnel départemental. J'ai la particularité, à la fin, en ayant un peu assez du PS, de m'être présenté tout seul, sous mon étiquette à moi, gauche républicaine. Bien, le rapport qu'on a avec les citoyens n'a aucun rapport avec celui qu'on avait lorsqu'on était candidat d'un parti. C'est réellement un rapport entre humains. Et je pense qu'il y a un besoin de recréer, oui, cette vie politique qui consiste à avoir des liens entre les citoyens et avec leurs propres élus. C'est-à-dire, l'élu redevient un représentant. Quand on reproche, comme disait Anne-Cécile à l'instant, au suffrage universel de créer des représentants qui ne représentent pas, ben oui, c'est pas parce qu'ils sont représentants, c'est parce qu'ils représentent pas que ça pose un problème et que le système, justement, ne permet pas d'être représenté. Donc, retrouvons une voix différente pour faire entendre la voix de l'ensemble des citoyens.
Merci André. Jean-Pierre, je me tourne vers toi maintenant.
Quelques questions qui sont tout à fait intéressantes, je pense. Quel niveau de souveraineté d'un État par rapport à l'Europe, même avec une autre constitution? Il y a eu un article sur le sujet il y a quelques mois dans le monde diplomatique qui pose de véritables questions. Deuxième question, élire une constituante parfaitement d'accord, mais qui seraient les candidats? Qui les proposerait? Comment candidater? On manque aujourd'hui de culture politique. Comment faire du populaire? Attention, pas du populisme. Il se passe des choses en assaut et en collectif, mais il y a aussi un certain repli sur soi-même. Comment redonner plutôt confiance aux citoyens et citoyennes? Autre question, vous devriez interroger les gens d'en bas, entre guillemets, qui ne votent pas. Vous seriez surpris pourquoi. Parlez-vous à la place des gens, les Français, mais lesquels? Je m'arrête là ou j'en ai encore. Ouais. Bon, écoutez, je vous donne tout et puis vous traiterez ce que vous pensez pouvoir débattre. Hein. Qui doit organiser le pouvoir exécutif? Et compte rendu des résultats décevants des assemblées constituantes en France comme ailleurs dans le monde, pourquoi et comment une nouvelle tentative donnerait-elle de meilleurs résultats? Je pense qu'il y a référence à l'expérience chilienne en particulier. Ne faut-il pas, pour prendre les choses par l'autre bout, favoriser un changement culturel en développant les démocraties, la démocratie dès l'école? Bon, là, ça va prendre du temps. Voilà, bon, à vous la parole.
Merci Jean-Pierre. Qui veut commencer?
Anne-Cécile.
Anne-Cécile, c'est à toi.
Ah, je suis surprise, j'étais persuadée qu'André allait sauter sur la question sur l'Europe.
C'est ma modestie naturelle.
Je suis très très touchée par la question effectivement sur les gens qui ne votent pas. Ce que la personne, je sais pas qui l'a écrite, elle parle des gens d'en bas. Moi, je déteste cette expression, les gens d'en bas, les gens d'en haut. On vit tous dans la même société. Je pense pas être plus ou moins coupée que d'autres de la vie sociale, ne serait-ce que parce que j'écoute les gens dans le métro ou quand je prends le bus. Ou quand je vais à des réunions de famille où il y a toutes sortes de gens et pas forcément les plus progressistes. Et effectivement, on voit monter un désaveu de la politique, parfois même un dégoût de la politique, un rejet de la politique. Et on comprend très bien, même des gens comme moi, des fois il faut que je me force. Pour aller voter parce que je dis mais ça sert à quoi, etc. Et il faut se mobiliser parce qu'il y a rien effectivement d'enthousiasmant et en plus la vie concrète des gens se dégrade à une vitesse. Mais très concrètement, j'étais au supermarché tout à l'heure avant de venir, il y avait une dame qui avait des pièces dans la main et elle comptait ce qu'elle pouvait acheter. Elle était devant le mur des pâtes. Et alors, je voyais qu'elle comptait littéralement sous par sous dans sa main, ça allait pouvoir acheter un paquet de pâtes. Donc, on vit comme ça. Et je suis par ailleurs enseignante et j'ai des étudiants Je sais qu'ils ne mangent pas à leur faim tous les jours. D'ailleurs, je le vois physiquement. Il y en a qui arrivent, ça se voit qu'ils sont pas en bonne santé. Donc, il y a une dégradation de la vie concrète des gens et dans le même temps, une arrogance des gens de pouvoir avec un premier ministre qui nous explique qu'il faut faire des économies, mais des économies où? Des économies où? Est-ce qu'ils vont encore faire des économies dans nos écoles, dans nos hôpitaux, etc. Et je fais lien avec la question sur la représentation politique qui est extrêmement importante. J'ai la faiblesse de penser que si il y avait un référendum aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, sur l'hôpital public, il y aurait une, sauf surprise extravagante, une majorité écrasante de gens qui diraient qu'il faut mettre des millions dans l'hôpital public. Pareil pour l'école, je serais très surprise, mais peut-être que je me trompe, hein, que le suffrage universel, s'il était interrogé, donnerait l'idée qu'il faut faire un budget d'austérité, surtout enlever les impôts à Bolloré, etc. Je serais très surprise. Je pense que la démocratie, si elle était ouverte, si elle fonctionnait normalement, donnerait dans le même temps des réponses sociales. Et ce qu'on a vu avec le mouvement contre la réforme des retraites confirme cette idée. Il y a une demande de social qui est bloquée parce que les institutions politiques l'empêchent de s'exprimer. Donc c'est bien en ouvrant au suffrage universel le plus largement possible qu'on rétablira une connexion positive progressiste, non seulement pour la démocratie, mais aussi pour le progrès social, pour l'amélioration des services publics. Et l'autre remarque que je voulais faire avant de repasser la parole à André, c'est sur la culture politique. C'est vrai que on a une dégradation de la culture politique, les références historiques. Même c'est intéressant quand on parle. Une fois, André et moi, on faisait une conférence, je sais plus où, et André parle du bonapartisme. Et au bout d'une minute, il s'aperçoit qu'il y a une ou deux personnes qui s'agitent. Et finalement, alors André leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vous choque? Et l'une des personnes finit par dire, mais c'est quoi le bonapartisme? Et donc voilà. Et donc André, bon voilà, Bonaparte, il y a eu Napoléon Ier, etc. Et pourtant Bonaparte, c'est pas la figure la moins connue. Hein, mais les gens connaissent plus peut-être Napoléon. Donc effectivement, il y a un problème de référent politique, mais il y a aussi, et on le voit. Sur certains sites, sur même dans le milieu associatif, il y a des références parallèles qui continuent de circuler. Et j'ai été très frappée pendant de voir que pendant les Gilets jaunes, par exemple, et pendant la réforme, le mouvement contre la réforme des retraites, que les références à la Révolution française, à 1789, étaient encore très présentes. Alors qu'on ne l'enseigne pas tellement, enfin on l'enseigne, mais pas forcément de manière claire ou positive. Où on fait comme à la soirée d'ouverture des Jeux Olympiques, on se réfère à la Révolution française avec des fleuves de sang et des têtes coupées, au lieu de montrer, de rappeler que la Révolution française, c'est l'avènement de la démocratie, c'est l'avènement de la souveraineté du peuple, au lieu de rappeler donc que la Révolution française, c'est des références positives. Eh bien, ces choses-là, ça continue de circuler de manière un peu sauvage, mais il y a certainement aussi un travail de transmission à faire. C'est ce que font les Amis du Monde Diplomatique, c'est ce que font des tas d'associations qui font de l'éducation populaire. Il y a beaucoup d'éducation populaire, les foyers ruraux, il y a beaucoup de cafés citoyens dans des zones parfois reculées où les gens se transmettent des souvenirs politiques, des références politiques, des expériences politiques. Mais c'est vrai qu'il faut que les citoyens le font. Et même, il faudrait le faire aussi à la table du dimanche avec les enfants, les petits-enfants, les cousins, cousines, transmettre cette histoire-là. Moi, je le fais avec mes étudiants. Je commence tous mes cours maintenant par un petit cours d'histoire. Ils écoutent les étudiants, hein. Ils sont en master 1 et 2. Et ils me disent, mais madame, personne ne nous a jamais raconté ça. L'autre fois, c'était hier, je leur ai fait un sketch sur la première abolition de l'esclavage en 1794, et j'ai fait le lien, vous allez pas comprendre pourquoi, mais en même temps si, avec les aventures de Rabbi Jacob, le film avec Louis de Funès, de 1973. Vous vous demandez bien pourquoi, hein. Eh bien, revoyez ce film après cette conférence. Vous verrez que dans les 20 premières minutes, un film de 1973, il y a une scène antiraciste. On se souvient des, pour ceux d'entre vous qui se souviennent du film, pour les liens arabes et juifs, hein, puisque ça se passe notamment dans le quartier de la rue des Rosiers à Paris. Mais dans les 20 premières minutes, il y a une scène antiraciste culte qui se passe lors. Je vous le dis, je vous dis pas, je vous en dis pas plus. Vous verrez. Et cette histoire antiraciste française a passionné mes étudiants hier. Donc voilà, ça c'est de la transmission sauvage, et c'était juste une anecdote pour glisser Louis de Funès, que j'adore par ailleurs, et qui nous manque, je dois dire.
Merci Anne-Cécile. André, c'est à toi.
Alors,
Tu as
je
la
voudrais
parole.
insister sur un ou deux points qui ont été évoqués, en particulier. Sur des points dont on entend tout le temps, tout le temps, tout le temps parler dans nos conférences, comme dans les relations qu'on a avec tel ou tel lorsqu'on parle de l'avenir politique de la France. D'abord, la question des représentants. C'est devenu une habitude, et en particulier dans certains milieux qui se disent progressistes, de dire dès qu'il y a représentant, c'est vilain pas beau. Alors, je n'ai aucun doute sur le fait que les représentants aujourd'hui ne représentent pas, je l'ai déjà dit, j'y reviens, mais on ne peut pas limiter la question à ça. Il y avait un moment où il faut qu'il y ait des gens qui portent la parole. Le problème, c'est que les représentants ne représentent pas. Et ils devraient porter la parole, et au lieu de ça, ils s'approprient la parole. Et d'une certaine façon, il n'y a plus de rapport entre les citoyens et leurs élus. Et la crise de régime dans laquelle nous sommes, c'est le fossé qui s'est créé, bah, entre les élus et les citoyens. Si l'élu ne représente plus, pourquoi diable est-il là? Bon. Alors, s'est développé là-dessus un discours assez bizarre, qui a été lancé, nous savons pourquoi, mais on ne le dira pas, sur la représentation, c'est issu de la Révolution française et de Sieyès, qui était pour la représentation plutôt que pour la démocratie directe. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la Révolution française, premièrement, au moment où Sieyès évoque ces questions, comme d'autres, ils sont tous représentants, Sieyès comme les autres, et Sieyès, son problème, c'est pas du tout de représenter ou pas, c'est de savoir si on devait élire en suffrage censitaire ou en suffrage universel. Lui, il était pour suffrage censitaire. Alors, comme démocratie directe, ça se pose un peu là, et oui, il était contre une représentation réelle. Bon, donc c'est pas la peine de le présenter comme l'archétype des gens qui sont pour la représentation démocratique. C'est tout le contraire. D'ailleurs, c'est lui qui a organisé le coup d'État du 18 brumaire, qui a donné le pouvoir à Bonaparte, qui devient après Napoléon. Voilà. Donc, c'est vraiment un très mauvais exemple. Mais je le cite au passage. Alors, du coup, la question qui va se poser, surtout si on part des communes, c'est: les candidats, lesquels? D'abord, les candidats, par principe, ceux qui voudront être candidats. Après, il appartient à l'Assemblée communale, c'est-à-dire l'Assemblée des citoyens de la commune, de voir parmi les candidats celui qui portera le mieux sa parole, celui qui est adapté à la position majoritaire, celui qui acceptera de se faire contrôler, et non pas de considérer que du moment qu'il est élu, il peut dire n'importe quoi, n'importe où. Donc, il y a toute une question, et c'est une question qui d'ailleurs touche aux institutions qu'on veut construire. S'il y a représentant, c'est quoi? Est-ce qu'il est contrôlé? Est-ce qu'il y a un compte-rendu de mandat avec une possibilité de révocation de l'élu? Est-ce qu'on peut parfois remplacer la parole du représentant par le référendum d'initiative citoyenne? Toutes choses qui sont en débat pour une constitution future. Bon, c'est tout ça dont il faut parler. Et aujourd'hui, ce sont des sujets qui ne sont ou pas évoqués, ou évoqués de façon péjorative, de manière à ce qu'on les mette sous le boisseau rapidement. Mais en toute hypothèse, en rester à l'idée, il ne faut pas de représentation, c'est une idée un peu primitive qui ne mène pas à grand-chose. La question, c'est, on porte une parole, comment? Alors, deuxièmement, la question de la souveraineté, en particulier par rapport à l'Union européenne. La démocratie dans l'Union européenne, il faut bien reconnaître que du moins dans les premiers temps, c'est-à-dire le marché commun, quoi, la question de la démocratie n'était une question absolument pas évoquée. Et puis un beau jour, elle émerge. Alors, moi, je dis toujours assez curieusement, par un vocable comptable, le déficit de démocratie. C'est extraordinaire qu'on soit allé chercher un vocabulaire comptable pour parler de cette question. C'est très révélateur, c'est très symbolique. Bon, il y a qu'à dire une absence de démocratie, une crise de la démocratie, une non-représentation, enfin, que sais-je. Mais pourquoi un déficit? C'est très révélateur d'une manière de penser et des références qu'on a en général. Alors, face à ça, on a créé un Parlement européen. C'est Giscard d'Estaing qui a poussé cette idée. Anne-Cécile en parlerait mieux que moi. Je pense que, en termes de pouvoir, il en présente plus grand chose. Mais comme les États eux-mêmes nous représentent de moins en moins quelque chose, la question qui va se poser, c'est où est le pouvoir? Où est-il? Moi, je suis un de ceux, vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu un appel de 50 personnalités là, qui demande que s'il y a un saut fédéral, c'est-à-dire on abandonne définitivement toute souveraineté nationale au profit d'une espèce de conglomérat qui dirigeait on ne sait trop par qui d'ailleurs, il y a cette idée de saut fédéral, et donc on a été une cinquantaine à dire s'il doit y avoir ça, il faut qu'il y ait un référendum. Bon, alors on verra bien ce qui va se passer. Mais il est inadmissible qu'on fasse des réformes pareilles sans jamais faire appel au peuple et sans demander l'avis des citoyens. C'est comme ça qu'on crée les crises, c'est comme ça qu'on crée les violences. C'est inévitable et il faut arrêter. Donc la souveraineté nationale en l'état actuel de l'Europe, c'est un peu la peau de chagrin. Ça ne veut pas dire que la question ne se pose pas et ne se posera pas. Il n'est pas évident que cette espèce de montage qui ressemble quand même largement à une usine à gaz doive perdurer. Il y a un moment, il faudra poser la question de, on est ensemble pourquoi, comment et sur quelle base philosophique. Toute question qu'on évite de poser parce que ça gênerait trop de gens et ça créerait une crise. Mais de toute façon, la crise arrivera, donc il vaut mieux la poser ostensiblement que la laisser venir de façon accidentelle.
Merci André.
Même audio, une mémoire sonore.
On se dirige progressivement et gentiment vers la fin. Donc Jean-Pierre, tu vas nous proposer une série d'interventions et on redonnera la parole à André et à Anne-Cécile. On t'écoute, Jean-Pierre.
Oui, effectivement, le débat est très, très actif sur le chat. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais bon, j'essaye de sélectionner quelques interventions. C'est pas très évident parce que j'en loupe peut-être et j'en suis désolé si je loupais des choses importantes. Alors, je reviens sur ce que j'ai noté quand même actuellement. Est-on dans une démocratie quand le vote blanc n'est pas reconnu? Pourquoi ne parle-t-on jamais du compte des votes blancs? Ça s'est revenu au moins deux fois. Autre question, pourrions-nous nous inspirer de l'expérience constituante islandaise? Celle-ci a été, à ma connaissance, participative à grande échelle grâce à l'outil Internet. Autre commentaire, depuis quand la démocratie ne doit être qu'un système de démocratie représentative et donc seulement un système avec des élections? La démocratie ne peut-elle pas être un processus de construction ensemble au quotidien avec des délégués certes élus mais contrôlés? Qui rejoint la question de la démocratie est directe dès lors que les citoyens contrôlent les mandatés et peuvent les révoquer. C'est le minimum d'un pouvoir effectif du peuple. Question aussi, la constituante s'inspire-t-elle sur certains points de l'expérience de la Commune de Paris de 1871? Et enfin, quelqu'un qui demande à André, donc pourriez-vous s'il vous plaît développer cette logique qui selon vous mènerait inévitablement au RN dans le cadre actuel? Bon, s'arrêter là. Je vais revenir sur le chat.
Bon, alors, je commence. Allez. D'abord, sur le vote blanc. Il y a eu un tout petit progrès, mais qui est sans conséquence, c'est-à-dire qu'on a séparé dans les comptes les votes blancs et les votes nuls. Hein, vous l'avez sans doute remarqué. Mais comme personne n'a fait de commentaire sur les votes blancs en tant que tel, c'est comme si on n'avait rien fait. La vraie question du vote blanc, c'est peut-on considérer que c'est un vote exprimé? Par exemple, il y a eu, je le disais tout à l'heure, un référendum sur le traité constitutionnel européen, avec un résultat particulièrement significatif, tout à fait légitime, et on l'a bafoué. En revanche, il y a eu un vote sur le quinquennat, où il y a eu, je crois, moins de 20% de votants, ça n'a gêné personne. Et ça a été reconnu. Peut-on considérer que s'il n'y a que 20% de votants, le vote est considéré comme nul? Ça serait une question intéressante. Peut-on considérer que si quelqu'un est élu avec seulement, je ne sais pas moi, 40% au deuxième tour des votants, il n'est pas élu. Il faut refaire l'élection. C'est ces questions-là qu'il faudrait poser. Ce n'est pas uniquement le fait qu'on le comptabilise, c'est quelle est la conséquence sur la légitimité. Je pense que ces questions-là, il faut les poser. Il y a, je crois, des pays où quelqu'un qui n'a pas eu, alors je ne sais pas combien, mettons 30% au deuxième tour, n'est pas élu, on refait l'élection. Alors ça, c'est des questions qu'il faudrait sans doute poser. Et moi, je serais tout à fait pour. Hein. Alors, sur les élus, moi, j'en ai parlé tout à l'heure, les élus doivent être des représentants au sens profond du terme, hein, et pas comme ça, on est élu, et puis après, on attend 5 ans, et puis on n'a aucun rapport avec les citoyens. Non, pas du tout. On doit avoir un rapport, je dirais quasi quotidien, il ne faut pas trop pousser, mais un rapport permanent avec les élus, ce qui veut dire du contrôle, ce qui veut dire une possibilité de révocation. Il existait dans la Révolution française un terme, moi je l'ai découvert grâce à notre historienne de la Révolution, Florence Gauthier, qui était les commis de confiance. C'est-à-dire, c'était les élus, mais ça ne s'appelait pas comme ça, c'est les commis de confiance. Donc on donnait confiance, on devait avoir confiance. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle de la confiance. Voilà. Donc, ça, je crois que c'est un des éléments dont il faudra se saisir lorsque s'il y a, ce que j'espère, une constituante. Voilà. Alors, sur la question que j'ai évoquée du RN, bien entendu, ça va de soi, je peux me tromper. Je dirais même que j'espère me tromper. Mais ce n'est pas parce que j'espère quelque chose que je considère que c'est la probabilité la plus importante. Je crois que le RN apparaît de plus en plus. Mais quand même, il a fait un score, il est le premier groupe à l'Assemblée, hein, en dépit du deuxième tour. Hein. Il a fait un score considérable qui prouve son ancrage et qui prouve que quelque part, il y a une dose de confiance qui croît dans la population. Alors pourquoi il peut représenter dans le cadre du système actuel? D'abord parce qu'il symbolise plus que les autres l'autorité. Deuxièmement parce qu'il est moins mouillé dans toutes les affaires que les autres partis, puisque par définition on l'a exclu, il peut dire « moi j'ai rien fait ». Donc il a un certain nombre d'avantages qui assez naturellement peuvent pousser à dire « bon ». Puisque on ne veut pas les autres, pourquoi pas celui-là? Bon, c'est pas enthousiasmant, mais c'est une possibilité dans l'état actuel des choses. Et la seule chose qui peut répondre à cette logique, c'est le retour au peuple. Parce que ça ne veut pas dire que le peuple est pour les RN. Ça veut dire simplement que dans le cadre du système, ben, quelque part, on a ça sous la main, pourquoi pas ça? C'est pas enthousiasmant, mais c'est comme ça. Voilà. Mais Encore une fois, moi j'espère me tromper, hein, mais il me semble que la logique historique y pousse. D'ailleurs, quand on voit dans les autres pays européens, il y a le même genre de poussée, hein. Ce n'est pas un hasard. Donc, résister à ça, je ne vois qu'une réponse et non pas oui, mais la gauche a toujours été, ou l'égalisme a toujours été. Oui, ça passe plus dans le discours. Ça passe plus. Non, la seule réponse, c'est refaire confiance au peuple et dire maintenant, OK, c'est vous le souverain, reconstituez le système.
Merci André. Anne-Cécile.
Oui, pour compléter ce qu'a dit André, moi je trouve que les électeurs, les Français, depuis 30 ou 40 ans, résistent de manière exceptionnelle à l'extrême droite. C'est-à-dire, il y a des tas de pays qui ont déjà cédé, qui ont eu des gouvernements d'extrême droite, qui sont partis, qui sont revenus. J'ai vu que les Autrichiens, qui avaient eu Jörg Haider il y a 20 ans, viennent de revoter à l'extrême droite. Et je trouve que les Français résistent. Ils se prennent des coups dans la figure sans arrêt. Le pays se dégrade, les services publics s'effondrent. On se moque d'eux, mais ils continuent à refuser la solution de facilité, il continue à refuser, à ne pas écouter les sirènes du Rassemblement national. Je trouve qu'ils font preuve d'une résistance qui est plutôt bon signe. Je veux dire, vu ce qu'ils se prennent dans la figure, ils auraient dû, s'ils étaient fachos, ils auraient cédé depuis longtemps. Donc je pense qu'il faut venir au secours des électeurs en ouvrant, en leur offrant la possibilité de s'exprimer d'une manière ouverte et qui leur permette de voter pour les choses qui les intéressent sans avoir à passer sous les fourches caudines, comme on dit, des partis politiques extrémistes. Et pour ça, à mon avis, il n'y a que le suffrage universel et effectivement ouvert le plus largement possible. Et là, d'accord avec la personne qui a posé la question, il n'y a pas de raison de se limiter à un système purement représentatif. On peut effectivement avoir de la démocratie directe. On peut, là, il faut que l'imagination soit au pouvoir, des mandats révocatoires. On peut, alors là, il faut y aller à fond. Il faut ouvrir effectivement le plus possible. On peut pas avoir un système où les gens, une fois élus, sont inaccessibles. Il faut qu'on crée des passerelles en cours de mandat. Et là, il y a plein de possibilités. Il y a eu des expériences menées effectivement sous la Commune de Paris. Il y a toutes sortes de possibilités de révocation des élus qu'il faut mettre en œuvre et qui permettent de rendre le système plus vivant. L'autre remarque que je voudrais faire, c'est que j'ai la classe dirigeante aujourd'hui, elle a peur du suffrage universel. Elle se méfie du suffrage universel. Et ce que André disait tout à l'heure sur la construction européenne, c'est le symbole de ça. C'est un système qui est verrouillé, qui empêche le suffrage universel de s'exprimer, parce que il y a le système de l'expertise avec la Commission européenne, il y a le système qui mélange le pouvoir des États, le pouvoir du Parlement, etc. Tout ça fait que le suffrage universel dans l'Union européenne s'évapore. Et c'est assez symbolique de la peur et de la réticence que les classes dirigeantes, ce qu'on aurait appelé dans le temps la bourgeoisie, éprouvent vis-à-vis du suffrage universel. Ce que je veux dire par là, c'est que la démocratie, c'est aujourd'hui une exigence révolutionnaire, c'est une revendication révolutionnaire. Pendant un certain nombre d'années, y compris à gauche, on disait, ouais, la démocratie, c'est bourgeois, le vote, c'est bourgeois. Pas du tout. Dans le système où on est aujourd'hui, c'est révolutionnaire. Et malheureusement, la gauche n'est pas complètement sûre de ça, et l'extrême droite l'a compris. Donc elle est à fond à utiliser les mécanismes démocratiques, alors que ce devrait être à nous, les progressistes, quelles que soient nos préférences politiques, à investir la démocratie. Le meilleur outil, en fait, contre la classe dirigeante, c'est le recours au suffrage universel, c'est une vraie démocratie.
Oui, merci. Alors, avant de se quitter, André, Anne-Cécile, est-ce que vous voulez nous dire un dernier mot, un mot de conclusion, une recommandation, un mot d'espoir?
Peut-être deux mots d'espoir, on fait que ça. Alors restons sur le mot espoir, oui. Nous avons depuis quelque temps l'association pour une constituante avec d'autres associations qui militent pour la démocratie tenter de dire et proposer. Soit dit en passant, on ne mesure pas le nombre d'associations qu'il y a en France qui militent pour la démocratie. Il y en a énormément. Le problème, c'est qu'elles ne se connaissent pas toujours, elles militent localement, elles n'ont pas toujours des relations organisées, que sais-je. Et donc, on a fait ces réunions, et en particulier, on en a fait une, c'était il y a 2 mois, là, à Paris, où on a essayé de dégager des sujets communs. Parce qu'effectivement, on peut tous avoir des possibilités différentes, des visions différentes de la Constitution telle qu'elle devrait être, mais on peut avoir des objectifs communs. Parmi ces objectifs communs, il y a le fait qu'on doit redonner une place au référendum, qui aujourd'hui est complètement abandonné, et que donc ça doit être un élément fondamental de la démocratie à construire. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de démocratie si on continue à avoir un droit européen qui prime le droit national, et que donc il faudrait qu'il y ait un référendum pour remettre en cause ce principe. Et voilà un certain nombre de choses sur lesquelles on peut être tous d'accord et sur lesquelles on peut tous travailler ensemble. Alors, on disait, il y a quelqu'un qui a dit, comment l'imposer, hein? Comment est-ce qu'on l'a imposé dans l'histoire? D'abord en se l'imposant à soi-même. Et en commençant pas par dire non, c'est pas possible, c'est tellement difficile, il y a tellement de contraintes, j'y peux rien. Non, on veut qu'il y ait une constituante et qu'elle soit élue. Voilà. Si déjà on en est convaincu soi-même, on convaincra mieux les autres. Donc il faut commencer ce travail et il faut le faire au niveau à notre avis le plus proche des citoyens. Bon, la commune, c'est un bon exemple. C'est les quartiers, si la commune est trop grande, évidemment. Bon. Et puis, ils travaillaient en faisant un certain nombre de propositions. Pas obligatoirement des choses trop détaillées. Moi, je pense qu'au Chili, ça a été trop détaillé. C'est pour ça que ça a foiré. Mais ceci est un autre débat. Hein. Il faut absolument que cette idée progresse dans ce cas-là de collectif. Et puis après, oui, on approfondira. Mais si déjà on est tous d'accord sur un objectif commun, on est déjà sur la bonne voie.
Merci André. À toi Anne-Cécile.
La situation me semble beaucoup plus ouverte qu'on ne pense. C'est vrai que là, on est un peu confronté à une telle accumulation de blocages avec des situations parfois tordues qu'on peut se dire mais au fond ça bouge pas, c'est coincé, etc. L'expérience qu'on a avec toutes les conférences qu'on fait en province, les choses qu'on entend, c'est qu'il y a au contraire une demande, un bouillonnement. André faisait allusion à toutes les associations qui travaillent sur la démocratie, il y en a énormément. Et il y a une agitation en fait, il y a un bouillonnement, et logiquement, ce bouillonnement devrait donner quelque chose. Le défi qu'on a, et c'est pour ça qu'il faut qu'en tant que citoyen, on reste mobilisé, c'est que ce bouillonnement, il aille dans le bon sens. Parce que sinon, effectivement, les diseurs de bonne aventure, les démagogues, les manipulateurs vont s'en emparer pour orienter dans un sens autoritaire avec la démagogie, les solutions faciles. Mais je pense pas que ce soit ce que les citoyens souhaitent. Mais pour empêcher cet écueil, il faut qu'en tant que citoyen, on continue à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire organiser des réunions comme on fait ce soir, discuter dans les cafés, parler autour de nous, diffuser des idées, de manière à ce que quand la fracture va s'agrandir, parce qu'elle est en train de s'agrandir, elle ne va que s'agrandir, il faut que des idées positives, progressistes, républicaines, démocrates, prennent l'espace à la place des idées réactionnaires. C'est pour ça que c'est une période qui appelle la mobilisation de chacun et à la limite le dialogue de tous les jours avec tout le monde. Moi, je parle avec les gens dans le métro ou quand je fais la queue dans les magasins. Ça dure pas forcément très longtemps parce qu'il faut occuper l'espace avec des idées positives et continuer à se réunir partout où on peut, dans les cafés, dans les mairies, dans les associations, pour déjà se serrer les coudes, prendre conscience qu'on n'est pas tout seul, et puis faire avancer des idées positives qui vont nous permettre de refonder notre démocratie et ce qu'on appelle en France la République.
Bien, merci Anne-Cécile. Alors malheureusement, c'est l'heure de se quitter. Merci à vous deux, André et Anne-Cécile. Merci pour vos interventions. Merci à tout le public d'avoir été actif à cette conférence. Merci à Jean-Pierre d'avoir fait la synthèse du chat. Et surtout, un grand merci à Marianne qui, dans l'ombre, a assuré toute l'intendance de cette visioconférence. On vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.
Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.